Déjà, vous présentez le contexte parce que c'est important, les conditions de production. J'ai créé une structure qui s'appelle les Musiques de la Boulangère, qui est une association de 1901, qui a été créée en 1975, vous n'étiez pas né, et qui est implantée aujourd'hui à Saint-Denis, enfin avec un studio à Paris, mais tous les bureaux et tous les locaux sont à Saint-Denis, et qui est une structure qui porte mon travail, mais qui porte surtout le travail plusieurs aspects de mon travail, et avec lesquels je réalise mes projets, et qui est la structure qui reçoit les commandes, on va dire, hein. Donc c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui sont isolés, d'autres qui s'en font partie de collectifs. Moi, j'ai créé quelque chose d'un petit peu atypique, c'est que j'ai une structure qui n'est pas un ensemble instrumental, et qui est une structure en fait pour moi tout seul, enfin, on va dire, sauf que je passe des commandes à d'autres compositeurs, mais c'est pas l'activité principale. Et cette structure est assez importante, enfin, elle fait beaucoup de choses très différentes. On fait un travail en prison depuis 23 ans, dans une prison depuis 23 ans et dans une autre prison depuis 14 ans. Et puis on fait tout un travail sur l'environnement sonore avec le ministère de l'Environnement et l'Éducation nationale. On répond donc à des commandes diverses. Et puis surtout, j'ai la chance, et qui risque de ne pas durer, mais pour l'instant ça va, d'avoir des aides publiques un peu régulières qui me permettent d'avoir des projets des projets personnels, quoi. Je peux décider de ce que je vais faire dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, sans avoir à expliquer. Enfin, je n'ai pas des aides de projet, j'ai des aides de fonctionnement, comme un ensemble, en fait, comme un ensemble instrumental, ou comme un studio national, quoi. Bon, sauf que les montants ne sont pas les mêmes, mais du coup, je cours après les subventions de façon régulière, mais pas sur les contenus, uniquement sur le principe de l'aide. Et après, j'invente des projets qui me passent par la tête, mais sans avoir à les défendre dans leur contenu artistique. Simplement, alors, je n'en défends que le principe de travailler de cette façon. Et donc, j'en arrive donc du coup aux conditions de production, parce que pour moi, c'est une chose qui est très importante, c'est qu'une œuvre mérite ses conditions de production. C'est-à-dire que si on travaille d'une certaine façon, on obtient un certain résultat. Je pense que c'est toujours lié à ça. C'est que c'est peut-être d'avoir travaillé John Cage qui m'a persuadé de ça, mais quand on met en place des dispositifs, quand on travaille d'une certaine façon, on a un certain type de résultat et on a les résultats qu'on mérite. C'est-à-dire que c'est si. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, du coup, je me suis beaucoup intéressé à réfléchir aux conditions dans lesquelles j'allais écrire des pièces. Et qu'est-ce que et pour voir comment j'allais écrire différemment de ce que je faisais avant ou de ce que j'ai fait la fois précédente. Et puis il se trouve que aussi, c'est une part aussi importante de ma direction, c'est que j'étais un enfant absolument pas politisé comme tous les enfants, enfin, tous les enfants dont les parents sont pas politisés. En fait, j'ai eu un peu de bol, enfin au hasard, c'est que j'avais 18 ans pendant un grand mouvement social. Et donc, je me suis très vite plongé dans les œuvres intégrales de Mao Tse-Tung. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup Marx, et j'ai lu beaucoup de choses comme ça. Et je me suis très vite impliqué dans les mouvements militants Mao à Paris, à l'âge de 18 ans. Avant de rentrer au GERB, avant de faire de la musique de façon professionnelle. Et ça a dicté toute ma vie. En fait, ma vie n'est qu'un engagement politique d'artiste, quoi. C'est-à-dire que très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas de faire des concerts dans les salles de spectacle, c'était de faire des concerts dans des endroits où je pouvais interpeller l'architecture, interpeller les institutions, interpeller l'acoustique, mais ça, c'est pas forcément politique, mais ça peut le devenir, interpeller la vie quotidienne, c'est-à-dire faire de la musique un lieu de réflexion, au sens à la fois du miroir, mais au sens aussi cognitif. De la vie quotidienne, donc trouver des contextes dans lesquels la musique deviendrait un espèce de lieu de débat ou un lieu de questionnement des institutions, de l'espace public, des espaces privés, des services, etc. Ça a donné lieu donc à un gros travail de recherche dans des lieux qui avaient donc essentiellement des objectifs politiques. Après, il y avait aussi le fait de travailler avec des amateurs ou travailler avec des gens. Donc l'idée était, donc j'ai fait des grosses opérations dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des écoles, dans des usines, tout ça. Ça, encore une fois, c'était une direction politique. Et la troisième chose, c'était Alors là, un peu moins, en apparence, un peu moins politique, mais ça l'était quand même un peu. C'est tout le travail sur la lutherie, c'est-à-dire tout le travail sur l'instrumentation, qui consistait en fait, au départ, à me détourner un peu de, je dirais, des instruments traditionnels qu'on mettait entre les mains, c'est-à-dire les instruments de l'orchestre ou la voix. Et bon, ça venait évidemment beaucoup, beaucoup de ma formation en musique électroacoustique, en musique concrète, mais pas seulement, puisque j'ai très vite voulu garder. Par exemple, quand j'ai arrêté un peu l'électroacoustique et que j'ai voulu passer vraiment aux instruments, j'ai conservé cette idée de détourner la vie quotidienne et donc de prendre de fabriquer des grands ensembles avec des objets sonores qui normalement, chez d'autres confrères, étaient plutôt des sources électroacoustiques et qui chez moi devenaient des instruments, quoi. Et donc du coup, sur ces trois dimensions qui sont les lieux, les objets sonores et les interprètes, je me suis retrouvé à. Bonjour. Non, c'est pas grave. Je me suis retrouvé à. Un peu. Quand même, je me suis retrouvé dans une marge, en fait. J'ai eu l'impression. Je me suis beaucoup marginalisé. Et, parce qu'en fait, quand vous faites toute votre activité, vous la faites avec des objets un peu bizarres que vous rassemblez dans des grandes quantités, dans des lieux qui ne sont pas les lieux habituels, et avec des interprètes qui ne sont pas toujours ceux qu'on attend, ben en fait, il se passe un truc assez. Ça produit une certaine marginalité, quoi. Une marginalité par rapport au processus de subvention, par rapport aux commandes, par rapport à. Et en fait, j'ai vaincu cette marginalité par la persistance et par l'entêtement. C'est-à-dire que quand vous faites des choses bizarres, vous faites des choses qui ne sont pas dans la ligne, ben vous mourrez ou vous résistez. Ben, mais quand vous faites ça pendant 40 ans, au bout d'un moment, ben vous retrouvez en situation de confirmation, quoi. Donc je vous encourage beaucoup à l'entêtement. C'est-à-dire que c'est quand on a une démarche. C'est très jubilatoire, je dis ça parce que j'ai 30 ans de plus que vous, quoi. C'est très jubilatoire de se retrouver avec une sorte de. Je ne vais pas dire de reconnaissance, parce que ce n'est pas le cas, mais une sorte de. Qui vient de cet entêtement, quoi. Et même si l'entêtement, d'ailleurs, a porté sur des dynamiques extrêmement contradictoires, parce que je n'ai pas fait une chose et puis je ne l'ai pas répété, quoi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses très différentes, mais avec cette ligne tout le temps de que la musique soit un lieu d'interpellation sur des thématiques, alors parfois formelles. Mais j'ai connu dans une école d'art, donc la question des concepts et des formes est centrale. Moi, j'ai pas été tellement là-dedans. Enfin, si, j'ai fait des choses qui avaient des objectifs complètement formalistes. Mais encore une fois, j'ai plus travaillé sur les contenus que sur les formes. Enfin, j'ai complètement travaillé sur les formes, mais j'ai mis les formes au service de mon contenu. J'ai pas fait des formes pour des formes, quoi. J'ai jamais travaillé vraiment à réfléchir à des formes pour des formes. J'ai souvent été animé par. Par exemple, là, on va commencer par regarder ce que j'ai fait avec le concert de Pierre. J'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai voulu faire un truc sur la pierre. Bon, quand j'ai voulu commencer à travailler sur les pierres, j'ai travaillé pendant 4 ans sur le minéral, sur les roches et tout ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher. Au lieu de me. J'aurais très bien pu, comme un jeune artiste, je sais pas quoi, qui s'intéresse à la matière, j'aurais très bien pu me suffire de dire, ben voilà, je vais travailler sur les pierres. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, voilà, il n'y a eu aucun instrument qui a été fait avec les pierres, donc je me suis renseigné comme un fou partout. J'ai été au Japon, j'ai retrouvé un lithophone au musée de l'Homme qui appartenait à des régions anciennes. Et puis j'ai vu que ça n'existait pas, donc ça m'a interpellé, le fait qu'il n'y ait pas un seul musicien, un seul interprète qui travaille sur la pierre. Puis après, je me suis rendu compte que la pierre avait des connotations idéologiques très fortes, que c'est la seule chose que si vous la possédez, c'est la seule chose contre laquelle la banque vous prête de l'argent. Si vous n'avez pas de pierre, elle ne vous prête pas d'argent. Et ça a l'air de rien, mais ici, on est sur des choses qui ont une valeur vénale, qui ont une valeur capitaliste. Puis je me suis rendu compte que la pierre aussi était un enjeu religieux. C'est qu'il y avait beaucoup de religions qui utilisaient les pierres à des fins mystiques. C'est-à-dire qu'ils commençaient à mettre des. Enfin, il y a plein de religions qui utilisent la pierre sur un plan mystique. Donc, à la fois, on a ce côté un peu spirituel de certaines religions un peu allumées qui utilisent la pierre pour lui conférer des pouvoirs pas possibles. Et puis, inversement, on a des gens qui investissent dans la pierre, qui investissent dans le foncier. Et aujourd'hui, le développement de la ville, il est uniquement sur le foncier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas fabriquer une ville avec de l'argent public. Enfin, je dis ça parce que je participe en ce moment, j'ai une mission de 3 ans avec une comité d'agglomération. Et c'est là que j'ai appris que quand on fabrique des, quand on fait, refait une place, quand on fait des logements, etc., tout ça, c'est des promoteurs qui payent. C'est des promoteurs qui investissent et ils investissent parce qu'ils vont en tirer de l'argent. Donc il n'y a pas d'investissement public en dehors d'une possibilité de rentabilisation. Et donc le foncier est vraiment le nerf de la guerre. Le foncier, c'est ce qui dicte l'évolution de nos villes. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un concert de pierre, c'est pour ça, pour montrer le cheminement un peu compliqué par lequel je passe à tout prix, quoi. C'est de me dire, voilà, la pierre, c'est quelque chose qui est, il faut que je libère les pierres, quoi. Il faut libérer les pierres, libérer les roches, libérer les minéraux, libérer les, par exemple, les cristaux, parce que les cristaux, c'est très cher, alors que ça n'a aucune raison d'être cher. Et donc, j'avais envie de faire des choses avec des quartz. Et puis, il y a aussi un projet démocratique, c'est à faire des choses avec des quartz, des agates, et puis avec des galets de Normandie, avec des ardoises, des lauses d'Espagne, avec un petit bout du mur de Berlin, avec des... Alors, je recevais des pierres par la poste, au désespoir de mon facteur, et parce que j'avais fait appel à plein de gens pour recevoir des pierres. Alors, j'ai fabriqué, au bout d'un moment, un lithophone avec des lauses d'art... Bon, il va se déclencher, lui, voilà. Ça, c'est des lauses de toiture en Provence. Maintenant, je suis très féru en pierre. Donc ça, il y a des ardoises de différentes qualités avec du feldspat et tout ça. Enfin bref. Et donc ça, c'est des lauses que vous trouvez dans le sud de la France, qui viennent pas d'Espagne et qui sonnent très très bien et qu'on peut accorder. Il y a des petites étiquettes sur lesquelles il y a des notes. Voilà, donc j'ai commencé avec des choses comme ça assez simples. Et puis alors après, j'ai commencé à faire des choses un peu plus compliquées. Je me suis fait par exemple des... Alors l'intérêt de ça, de ce genre de travail sur les matériaux, c'est que vous inventez vos instruments. C'est comme les instruments n'existent pas, vous n'êtes pas obligé de reproduire des claviers, ou des gongs, ou des chimes, ou des cymbales, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, par exemple là, c'est de l'onyx qui vient du Bosphore, de Turquie, que je découpe en lames. Et puis j'en mets plein, et puis après je fais rouler des billes dessus. Et donc, un jeu de lancement de billes, et puis ils tirent sur un support en bois avec des mousses, parce que c'est considérable, ça va pas faire peur pour le vêtement, ça pense qu'elle soit immédiatement avalée par la mousse. Et donc du coup, ce travail de lutherie, c'est aussi un travail de geste. Donc c'est aussi tout un développement d'une instrumentalité, pas seulement d'une source sonore, mais aussi d'un type d'instrument. Donc les répétitions, ça consiste aussi... Quand vous travaillez avec des musiciens professionnels, on n'a pas besoin de répéter le geste, quoi. On répète ce qu'on a écrit. Alors que là, il faut répéter ce qui est écrit. D'abord, il faut trouver ce qu'on peut faire de ça. Après, il faut répéter ce qui est écrit, mais il faut surtout répéter comment on le fait, parce qu'on rate tout le temps. Donc on est obligé de repartir presque à zéro dans le geste instrumental, comme on vit en électroacoustique, quand on cherche à faire un truc. Et en fait, comme on a inventé un geste, il faut le répéter, et ça peut prendre un temps fou. Ça, par exemple, c'est Jean-Pierre Drouet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un percussionniste éminent qui a beaucoup travaillé avec Kagel, avec Apergis, et qui maintenant est un peu en... Enfin, qui a décroché déjà du métier de percussionniste et qui compose et qui a écrit beaucoup d'études pour des percussionnistes, par exemple. Il a fait des études pour les batteurs, quelqu'un de précieux dans la musique contemporaine. Donc là, j'ai des silex, on voit, voilà. Alors j'ai sollicité pour ce projet, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils reviennent vers moi maintenant, l'école des mines qui a une collection de pierres incroyables, le bureau de recherche géologique et minière qui est à Orléans, que je vous recommande, qui m'ont donné des carottages d'EDF, parce que EDF, quand ils cherchent à mettre des câbles, ils font des carottages dans le sol, ils ont donc des machines qui forent, et après ils retirent la carotte, et c'est une carotte sublime, vous avez un cercle de pierres, que vous pouvez après mettre sur des mousses, suspendre, enfin c'est... Donc il y avait le bureau de recherche géologique et minière, il y avait le musée des sciences naturelles, il y avait l'école des mines, il y avait la collection de cristal et minéralogie de Jussieu. Enfin, et puis des marbres brillés, j'ai été à Carrare, j'ai prélevé plein de marbres. Parce qu'en fait, l'ensemble de tous les marbres du monde convergent à Carrare, parce qu'on parle toujours du marbre de Carrare, mais à Carrare, c'est un marché, en fait, c'est comme les Halles, c'est le marché du marbre. Et par exemple, tous les marbres brillés en France vont chercher leur marbre à Carrare, même si c'est des marbres français. parce que c'est tout est reconcentré là-bas. Donc il y a de la serpeggiante qui est un marbre du sud de l'Italie, il y a du marbre de Belgique noir superbe avec lequel on fait des instruments. Voilà, et ça a donné lieu à plusieurs types de concerts. J'ai fait un concert au Musée moderne de Paris en je sais plus quelle année, qui était très brut à l'époque. Je savais pas encore accorder les pierres, je savais les faire sonner, mais bon, c'était un peu brutal. Après, j'ai continué et puis j'ai refait ça. Ça, c'est à la Chartreuse de Villeneuve-Avignon, dans le cadre du Festival d'Avignon. Et là, cette fois-ci, je savais les accorder. Donc, j'ai commencé à faire les claviers qu'on verra tout à l'heure avec vraiment accordés. Bon, ça, c'est des silex, là, il y a des ardoises. Bon. Voilà, ici, les carottages, hein, qui sont sur des. Alors, donc, là, un instrument convexe, quoi. Et donc, essayer de travailler des formes qui fabriquent des gestes, qui peuvent fabriquer des sons. Parce qu'en fait, si vous mettez le chercheuse à plat, si vous le mettez comme ça, c'est pas possible que ça tombe, mais comme ça, ou si vous voulez supporter, évidemment, à chaque fois, vous sollicitez l'instrumentiste, vous sollicitez d'abord le compositeur, parce que vous fabriquez des sources, vous fabriquez des gestes, vous fabriquez donc des formes, mais en plus, après, vous posez des problèmes techniques à l'instrumentiste, et les problèmes techniques sont parfois intéressants. Je veux dire par là que si c'est un violoncelliste par exemple qui écrit pour violoncelle, il écrira toujours des choses possibles. Si c'est un compositeur qui écrit pour violoncelle, il y a des chances qu'il écrive des choses injouables. Et ces choses injouables, elles sont intéressantes. Parce que, par exemple, j'ai écrit une pièce pour violoncelle qui est jouée par deux violoncellistes sur le même violoncelle. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc vous avez quelqu'un qui tient le truc, et puis en fait, ils sont deux dessus. Donc tout d'un coup, deux personnes sur un instrument, c'est assez beau. Il y a quelque chose d'assez. C'est même pas que c'est érotique, c'est que c'est comme une attention, quoi. Vous avez deux personnes qui s'affairent autour d'un instrument, comme si cet instrument était un enfant et qu'il fallait s'occuper de lui. Et puis ils produisent un milliard de sons, évidemment, parce qu'à quatre mains, il n'y a plus de mains. On a l'habitude de faire du quatre mains sur le piano, mais pas sur un violoncelle. On pourrait imaginer un quatre mains sur une flûte piccolo. Et là, ça serait extrêmement intime, quoi. Enfin, ça serait. Mais c'est pour dire que l'intérêt de tout ce travail de lutherie, c'est de fabriquer de l'impossible. Et après ça, de chercher à vaincre l'impossible, ou en tout cas à l'utiliser. Enfin... Bon, ça, c'est une énorme stalagmite qui m'avait été donnée par le musée des sciences. On va y aller comme ça. Hein. Puis, en fait, c'est un mamelon, quoi. C'est une espèce de grand, énorme sein. Un sein naissant, évidemment, hein. Il n'est pas très tubérant. Mais il est posé sur des mousses. Et en dehors de son aspect érotique, c'est formidable. En pierre en boule, on joue comme sur un tablette, hein, sur les tablettes. Bon, on ne peut pas jouer du sein comme ça, mais là, en l'occurrence, on peut en profiter. Ça, c'est un petit jeu, c'est des plaques qui sont posées sur des mousses, donc qui résonnent beaucoup. Là, il y a plein de marbres différents qui sont. Et c'est pareil, c'est des projections de billes et qui dansent entre les plaques et qui font. Et on voit une stalactite d'ailleurs juste à droite. Enfin, il y avait 3000 pierres hein, dans ce concert. 3000 objets. Voilà, et ça a été donné après au théâtre de Jean-Philippe à Saint-Denis. Donc j'imaginais la complexité de l'installation. Il y a 5 percussionnistes. Et donc il y a des de cloches donc, qui sont en pierre, il y a des gongs en pierre, des gongs avec des formes un peu différentes, il y a plein de claviers, des installations différentes. Tout le sol est recouvert de sable et fontainebleau, c'est du grès intéressant. Et il y a des blocs de sable, il y a des blocs de sable qui sonnent aussi de façon assez intéressante. Donc on a une palette c'est-à-dire de timbres, de types de résonance, de types de granulation, de crépitement, qui est assez. Jubilatoire et le nombre de partitions qu'on pourrait écrire avec cet instrumentarium il est sans fin. Malheureusement, bon, moi c'était il y a longtemps, je travaillais plus seul, donc il n'y a que moi qui ai écrit là-dessus et tout ça est dans ma cave, dans des conditions d'ailleurs de rangement pas terribles, parce qu'en fait j'ai une cave dans laquelle il y a l'ensemble de tous les objets sonores de 40 ans de ma vie. Alors j'ai pas les baisers, j'ai pas les locomotives, il y a évidemment des choses que j'ai pas, mais il y a 900 cloches, 3000 pierres, enfin, il y a des centaines d'objets. C'est une cave d'Ali Baba, un jour, peut-être qu'on fera une expo. Ben voilà un clavier fini. Voilà, ça c'est un clavier qui fait 1, 2, 3, 4, 5 octaves. Et non, il fait 3 octaves celui-là. Et il est en onyx. Du Bosphore, un onyx de Turquie. L'onyx, c'est une forme de marbre qui est très cristallisée, donc qui est très dense, et qui a des résonances énormes. ça résonne beaucoup plus que le métal. Hein. J'aurais dû vous amener des. Enfin, je peux pas vous amener des morceaux de tout, mais c'est intéressant de savoir que le marbre avec des cristaux de quartz à l'intérieur sonne beaucoup mieux que le métal. C'est-à-dire que la durée de résonance d'une lame que vous excitez comme ça, elle est de, je sais pas, 7-8 secondes, là où le métal va s'arrêter à 4-5 secondes, et le bois, c'est 2 secondes, même pas, quoi. Alors après, on met des résonateurs, les vibraphones ont des résonateurs dessous, mais je l'avais fait aussi. Mais là, c'était... Voilà. Et alors du coup, j'ai inventé en même temps des baguettes. Donc c'est des baguettes. Alors l'invention d'un instrument, c'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur de formation, ni technicien, tout ça. Donc j'ai appris des choses. Donc j'avais acheté des agates, des boules d'agate, qui venaient du Brésil, que je faisais percer avec des trucs comme l'ultrason. Après, je mets des tiges c'est un matériau très particulier, très un peu élastique que je trouve en Allemagne. C'est de l'acrylite. Et il y a quelqu'un qui. Et après, je mets des manches en acrylite. Donc, ça, il y a une marque qui s'appelle Librawell, qui a des baguettes de percussion, qui les a distribuées pendant une dizaine d'années. Elle avait marqué toute la frise de baguettes en acrylite. Alors, il y a plein de. J'avais donc inventé un instrument. Il y avait plein de tailles différentes. Et c'est les baguettes évidemment les plus dures qu'on puisse trouver, parce que ça donne des sons très cristallins. Et... Bon, maintenant, elles ne sont plus distribuées, parce que... Alors, en plus, c'est un peu dangereux, parce que ça peut casser rapidement. Alors, la difficulté de le marbre, évidemment, c'est que si vous emportez, vous détruisez rapidement l'instrument, quoi. En même temps, ça se recolle et ça remarche, mais bon. Voilà, alors... Voilà le type de recherche, disons, recherche instrumentale qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que le premier concert, il était avec vraiment des matériaux bruts, des ardoises, de la phonolite que je suis allé chercher en Massif Central, des galets suspendus sur des cordes qu'on frappait. Ça. Donc quelque chose de très, vraiment très concret, quoi, une musique très concrète avec une sorte de, comme ça, de naïveté. Voilà. Et puis petit à petit... je persiste, je découvre que je peux les tailler, parce que ça se taille évidemment très bien. Donc je trouve des partenariats avec des marbriers qui font normalement des pierres tombales, et qui se disent tiens bon, on va faire autre chose avec ça maintenant. Donc il me taille des lames, il me prête des matériaux pour les poncer. Je m'aperçois que je peux les accorder. Après je progresse, je vais voir encore d'autres gens, et ça fait une démarche. Et pendant 3-4 ans, ça produit d'abord un orchestre entier, et surtout ça affine toute une série tout un projet sur la forme, sur donc cette discipline là que j'ai eue sur la pierre, finalement je l'ai retrouvée après avec d'autres choses. Je l'ai retrouvée avec la porcelaine, je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'ai fait une résidence à la manufacture de Sèvres pendant 3 ans, où j'ai fabriqué 800 objets en porcelaine. Alors là évidemment, ce que j'ai découvert avec la porcelaine, c'est que autant la pierre, vous avez un bloc et vous ne pouvez faire que le tailler comme les tailleurs de pierre, vous ne pouvez que diminuer la forme et essayer de trouver comment résonner, enfin de voir comment est-ce que, et puis travailler le couple excitateur résonateur. Autant la porcelaine, c'est de la flotte, c'est de la pâte. Donc là vous pouvez commencer à fabriquer des formes très étranges, et sous réserve qu'elles tiennent le coup après la cuisson à 1600 degrés, parce que ça casse pas mal. Parce qu'elle a une mémoire énorme, la porcelaine, je sais pas si vous avez déjà fait de la poterie chacun, mais quand vous travaillez la terre se rappelle des mouvements que vous lui avez fait. Et si vous avez fait des mouvements très très doux et gentils et conformes aux règles de l'art, ben elle tient le coup quand elle chauffe, enfin quand elle cuit. Mais si vous faites des mouvements un peu durs, c'est bizarre, elle est vieux, elle s'en rappelle et ça casse à la cuisson. Donc il faut, ça développe même tout un rapport à la matière au moment même de la construction, quand vous n'êtes même pas encore dans un projet musical, quand vous êtes vraiment dans un projet de fabrication, quoi. Alors les photos sont dans le désordre, donc on reviendra sur la porcelaine après. Je vais passer par des différentes choses qui sont un peu dans le désordre, il n'y a absolument pas de datation. Tu me disais de traverser ma vie, mais en fait elle va la traverser de façon complètement chaotique, parce que je n'ai pas les notions de date, donc je ne sais pas quand j'ai fait quoi. Je ne sais plus qu'est-ce qui était avant, après, et puis il y en a eu tellement que... Donc voilà, le journal actuel, qui n'existe plus maintenant, je crois. C'est Nova. Non, il n'y a même pas Nova, si.
Je suis pas sûre.
Maintenant, Nova, c'est juste une radio. Mais Nova Magazine, si, ça existe, non?
Est-ce que ça existe encore? Je sais pas.
Bon. Enfin bref, le journal Actuel, qui était un journal... je sais pas, vous avez connu Actuel ou pas du tout, non? C'était un journal... Ouais, c'était un journal alternatif, très... Un peu... Je vois, mis... Enfin, voilà, très branché sur les l'underground, très rebelle, très... Mais un peu militant, enfin, un peu militant, tranquille, mais... un peu... Ils avaient envie de... Ils avaient envie de... De faire leur, je sais plus combien, leur centième anniversaire, le centième numéro. Et on s'est lancé dans un concert de locomotive dans la gare de Lyon. Donc la première complexité, c'était de voir si on pouvait arrêter la gare pendant 3 jours. Et à cette époque-là, la gare, le sous-sol de la gare était déjà aménagé, donc la SNCF a regardé comment est-ce qu'ils pouvaient détourner tous les TGV pour qu'ils arrivent en dessous. Alors, on l'a pas détourné pendant 3 jours entiers, mais pendant pas mal d'heures, pendant 3 jours, donc ils ont vu que c'était possible. Deuxième chose, c'était de rassembler 12 locomotives différentes. Donc, j'ai replongé dans un nouvel univers, qui était l'univers des cheminots, parce qu'en fait, il n'y avait jamais eu de partition pour les cheminots. Et je dis ça avec un peu d'humour, mais les cheminots, quand je suis venu les voir pour leur dire « on va faire un concert avec votre matériel, vos matériels », ils m'ont tout de suite, ils m'ont pas dit que j'étais un fou, ils m'ont dit... ça leur faisait plaisir qu'un artiste s'intéresse à leur matériau, à leur machine et tout ça, et que finalement ils trouvaient ça bien qu'il ne manque pas une partition, quoi. Que voilà, maintenant il y en a une partition ferroviaire, et bon, alors il se trouve que j'ai pas tout inventé. Enfin, là en l'occurrence j'ai un peu tout inventé, mais j'ai pas tout inventé non plus, parce que l'idée c'est de faire un hommage aux brutistes. Et les brutistes, je suppose que vous avez fait de l'histoire de l'art, je sais pas, et que vous savez que c'est donc un mouvement qui était qui a commencé. Il y a eu plein d'applications dans la littérature, dans le son, etc. Mais ça a commencé dans 2 pays, en Russie, en Italie. En Italie, à travers un individu qui s'appelait Russolo, qui faisait des machines à bruit, et qui était un mouvement politique, hein, qui était un mouvement qui était se battre contre l'art bourgeois, de gens qui se rassemblaient dans des petites salles pour écouter des choses un peu élégante, tonale et entre soi. Et l'idée, c'était de dire, on va se battre contre ces beaux sons, et on va faire de la musique avec des bruits, et puis avec les gens, dans l'espace public, etc. Donc Russolo a commencé à faire des concerts avec des moteurs, avec des amplifiés dans des boîtes, etc. Et puis au même moment, en Russie, il faisait des concerts avec l'espace public. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des photos où il y a un musicien qui est sur le toit d'une gare, et ils font passer des avions, ils font passer des camions, ils font passer des trains, et c'est la musique, quoi. Donc Actuel était assez intéressé par ce mouvement brutiste, et me disait, est-ce qu'on pourrait refaire un concert brutiste? Alors moi, comme je venais, il se trouve que j'étais pas neutre, j'étais pas un plasticien. Un plasticien, il aurait fait concert brutiste. Moi, j'étais déjà musicien. Je sortais d'avoir été élève de Pierre Schaeffer et d'avoir été élève de John Cage. Donc j'étais, pour moi, le bruit était déjà largement un lieu de domestication, quoi. C'était pas, j'étais pas fasciné par le bruit en tant que tel. Et pour moi, faire du bruit, c'était pas un acte révolutionnaire. Enfin, c'était pas un acte de résistance anti-bourgeois. Enfin, il fallait que je travaille avec. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire pour les sons et pas de faire du bruit. Mais quand même, c'était intéressant de le faire avec ça. Donc, je suis allé visiter plusieurs dépôts. Et j'ai trouvé, donc j'ai réussi à avoir une machine à vapeur. Alors là, il y a c'est tout un inventaire de matériel ferroviaire, donc c'est assez intéressant. Il y a des machines à vapeur. Il y a des trains argentés que je n'avais pas connus, qui étaient utilisés tous les trains de banlieue avant TER. Ça, c'est la machine avec la machine Picasso. C'est Picasso qui fait le truc, le chauffeur est déporté. Et c'est dans cette machine précisément que De Gaulle a signé l'armistice avec les Allemands. Ça, c'est une machine à diesel qui fait pour tirer des wagons de marchandises. J'ai d'abord la TGV là, qui part sur la photo. Et
puis,
il est là, ouais. Et puis j'avais aussi demandé à avoir un wagon de train de nuit, parce que ça c'est pareil, c'est une chose que je n'avais pas connu, mais dans les trains de nuit, il y avait des sons très intéressants qui étaient les cendriers, des cendriers en métal, avec des petits chapeaux là. Et puis il y avait le contrôleur qui tapait sur la vitre quand il rentrait, il y avait les portes qui s'ouvraient comme ça, il y avait les rideaux qui se fermaient, mais tous ces sons étaient passionnants. Il y avait les sons du pantographe évidemment, et puis il y a plein de sons qu'on ne connaît pas nous, et les sons des essuie-glaces. Et puis plein de sons qu'on ne connaît pas, nous, qui voyageons dans le train, mais qui pas dans la locomotive, qui sont, on appelle le tacro, c'est-à-dire que quand le train passe à certains endroits sur les voies, il rencontre une plaque de métal et c'est ça qui permet de le localiser dans l'espace. Enfin, c'est un espèce de témoin de localisation avant le GPS, quoi. Et ça fait un bruit dans la locomotive. Enfin, il y a plein de sons, pas seulement en locomotive. Donc, j'ai imaginé mettre des micros partout. Et puis, j'ai rajouté un piano sur un praticable. Il y a un enfant qui chante aussi sur la machine à vapeur. Il y a un wagon plateau avec un chœur. Il y a... bon, ça, c'est une répétition dans le wagon. Et puis... Ah, ben, j'ai pas d'autres photos. Et puis, voilà. Donc, les locomotives, évidemment, on a commencé le concert. Elles n'étaient pas dans la gare. Ah, merde, c'est con. Il y a vraiment des photos qui manquent. Parce qu'il y avait aussi... un chef de gare qui avait donc était un musicien qui avait un maillet spécial pour qu'on tape sur les essieux, sur les bogies, qu'on tape sur les rails pour voir s'ils sont toujours en fonctionnement. Donc ça, c'est des sons formidables. Et puis alors à l'époque aussi, les tableaux d'affichage étaient des tableaux qui sont pas comme aujourd'hui, ça faisait comme ça, ouais, c'est des petits volets qui tournaient. Donc j'avais une musicienne qui était dans le bureau où ça se commande, et qui écrivait des textes que j'avais écrits pour que j'ai le nombre de rythmes que je veux. C'est-à-dire que si elle écrivait 5, ça fait 1, 2, 3, 4, quoi. Paradoxalement, si on écrit 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Enfin, ça fait 6, même 4. Donc, elle écrivait des mots, et puis elle était synchronisée avec des talkies, avec des assistants, tout ça. Et en fait, je faisais arriver tous les sons que je voulais au même moment, enfin, au moment où j'avais envie, quoi. Voilà. Et... bon, c'est une folie, hein, c'est un truc...
Ça vous a pris combien de temps
de faire ça? Ça a été très rapide, ce concert, parce que c'était un truc qu'on a inventé au dernier moment, et j'ai fait ça en 2 mois. Et dans chaque locomotive, il y avait un musicien qui lisait la partition et un chauffeur qui faisait ce que le musicien lui disait. Et donc, là, le klaxon, les essuie-glaces, le machin, le truc, avancer, reculer, les échappements d'air, vous savez que tout marche à la compression, hein. Donc, quand on arrive dans la gare, souvent, le type, il descend et il fait une manette qui envoie un... très très fort. Donc là, on jouait avec ces trucs-là. Enfin, on a fait des espèces de respirations comme ça. Bon. Et non, ça s'est fait très vite. On répétait dans les dépôts. On faisait venir toutes les machines dans le dépôt. Et puis, on est arrivé dans la gare au dernier moment, quoi. Et comme il y avait un monde fou, Actuel avait mis un écran à l'extérieur de la gare de Lyon, devant le sous l'horloge, pour que des gens puissent suivre le concert depuis l'extérieur de la gare, parce que tout le monde n'avait pas pu rentrer dans la gare. Il y a un film qui n'est pas monté. Il y a des images, mais ils ne sont pas montés. Un jour, de toute façon, j'ai des images de tout, mais rien n'est monté. Je pense que j'aurai jamais le temps de monter rien. C'est tellement un travail énorme.
Et il y a une partition.
Et il y a une partition, oui. Que j'ai pas là. Je vous ai amené quelques partitions, mais j'ai pas celle-là, non. C'est une partition compliquée, hein, parce que. Alors moi, en plus, on voit pas, mais moi, j'étais sur une tour, parce qu'évidemment, les locomotives, il fallait qu'elles me voient, tout le monde me voit, donc j'étais sur une tour qui était sur un des quais, le quai central, et ça faisait un peu... Oui, non, j'avais pas la casquette de... Voilà, bon, on va passer à un autre type de travail plus doux. J'ai imaginé, alors, je sais plus quelle année c'était, il y a au moins 20 ans, faire un travail sur le corps. Alors ça, c'est un travail plus formel. Alors là, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'intention cognitive forte. Et donc j'ai imaginé avoir un... Parce qu'en fait, comme je viens quand même de l'électroacoustique, ça me... Je suis quand même très très habité d'un travail sur la matière. Mais comme j'avais envie de retravailler pour des raisons, là encore une fois, sociales, j'avais envie de travailler avec des gens, j'avais envie de travailler dans des lieux avec des gens. Hein, et tous mes concerts sont gratuits, par exemple. C'est une chose importante, c'est-à-dire que les gens... Depuis 30 ans, 40 ans, j'arrive à faire... Enfin, pour l'instant, ça tient le coup. Je n'ai aucun rapport d'argent avec le public. J'essaye de donner tout ce que je peux dans les programmes. Et le concert sont toujours tout le temps gratuits. Et du coup... et puis en plus aussi, une chose importante, c'est que mes concerts ne sont pas enregistrés. Enfin, ils sont tous enregistrés, mais ils ne sont pas diffusés. Normalement, bon, à part quelques bavures, là, j'ai vu sur Internet qu'il faut que j'arrive à enlever. Mais normalement, on ne doit pas pouvoir entendre ce que je fais sur Internet. Et mon objectif, c'est de partir en laissant rien. C'est une petite fioriture personnelle, mais je trouve ça intéressant d'être vivant, quoi. C'est-à-dire d'aller à fond dans l'idée d'être quelqu'un de vivant, c'est qu'on rencontre là où il est, en train de travailler. Et puis si on ne l'a pas vu là, ben, on verra la prochaine fois dans la suite de son travail, mais on peut pas, ça ne se transforme pas en objet. Ça ne se transforme pas en... C'est une expérience vivante, c'est une expérience qui tient compte de l'acoustique, de l'architecture, du contexte, du projet, de l'expérience avec les gens, d'une partition particulière qui a été écrite dans un contexte particulier. Et en plus, il y a un tel travail de spatialisation souvent, un travail qui tient tellement compte de l'architecture et de la présence de gens. Par exemple, j'écris beaucoup pour des interprètes particuliers. Donc, il y a une part de vivant qui est très ça rend les concerts aussi assez fragiles. Enfin, tu as entendu des choses avec des salariés de PSA. Bon, c'est des choses que j'ai pas envie de voir enregistrer, que des gens écoutent ça chez eux sur deux enceintes. Enfin, c'est bon. Donc tout ça va disparaître. Enfin, tout ça est en train de disparaître au moment où ça naît. Donc c'est vivant. Et c'est quand on fait rentrer. C'est vraiment du vivant, quoi. Par contre, il m'arrive de redonner des choses. Je redonne des concerts assez peu. Il y a des pièces que je redonne, comme celle qu'on va voir maintenant sur la peau. Mais c'est assez difficile à remonter, parce que c'est toujours des contextes très difficiles. Aujourd'hui, refaire un truc à la Gare de Lyon, c'est même pas imaginable. Donc il y a des choses qui sont liées à des instants, à des moments. Et c'est pour ça que c'est bien de les laisser là, de les laisser dans le souvenir, quoi. L'intérêt du souvenir, par rapport à la mémoire, c'est que le souvenir, il est porté par quelqu'un. Et donc cette personne, quand elle raconte, ça donne l'objet d'une rencontre avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose de subjectif. On n'est pas sur l'objectivité, on n'est pas sur de la connaissance, on est sur de la rencontre, quoi. Et c'est un peu comme cette anecdote que je raconte des fois, c'est quelqu'un qui monte en haut de l'Annapurna. Alors vous imaginez le temps que ça met, hein, ça met 3 semaines avec des porteurs, avec tout un tas. D'abord il faut avoir de l'entraînement, on monte pas l'Annapurna comme ça, ça met 1 an pour monter, pour se préparer physiquement, pour apprendre plein de choses, etc. Puis après on monte, on s'arrête, il y a des étapes, et puis on arrive en haut. Et quand on arrive en haut, il y a quelque chose qui vient de 1 an de travail. On n'est pas arrivé en haut en cliquant sur Internet. Hein. Et donc, il y a quelque chose il y a une expérience physique, sensorielle, et puis aussi spirituelle, enfin métaphysique. Et d'autant plus métaphysique qu'en haut de l'Annapurna, on commence à voir la courbe de la Terre. On voit un milliard de couleurs dans le ciel qui n'arrêtent pas de se décliner, ce qu'on voit aussi d'en bas, mais pas aussi bien. La notion d'audition, elle est complètement perturbée. Elle est aussi perturbée parce que le corps est dans une épreuve physique par rapport à la température et la rareté de l'air qui est particulière. Donc tout ça, c'est inouï. Et quand je dis que c'est inouï, c'est qu'on ne peut pas l'entendre, quoi. Enfin, on ne peut pas l'enregistrer, quoi. L'enregistrer, ce serait bête, que ce serait même. Et donc, du coup, il y a deux attitudes. C'est celui qui fait « Ah, c'est trop beau, c'est trop génial !» et qui vit dans une espèce de concrétude et qui fait des photos à toute vitesse. Et puis, il y a celui qui est là-haut et qui vit une expérience qui, encore une fois, n'est pas seulement celle qu'il vit, mais celle qui vient de 1 an de travail. Et quand il redescend, il y a deux possibilités. C'est soit il prend les photos, il les projette sur le mur avec son vidéoprojecteur en disant « Regardez ce que j'ai fait !» alors. Et puis il monte là-haut, alors c'est à droite, à gauche, on se déplace, et les gens font « Ah ouais, c'est comme ça !» Et du coup, il cesse d'avoir un rapport avec ce qu'il a vécu, il commence à avoir un rapport avec la photo. D'ailleurs, il met la photo au-dessus de son lit, parce qu'il a été à l'Annapurna. Et du coup, il se met à avoir un rapport avec la trace, et il s'éloigne pas de l'expérience vécue, mais en tout cas, il ne formule plus l'expérience vécue. Et l'intérêt du souvenir, c'est que du coup, s'il veut raconter la Annapurna, il est obligé de passer par des métaphores sans arrêt inimaginables pour arriver à raconter ce qui se passe avec la rareté de l'air, avec les couleurs de l'air qui se décompose avec la profondeur de champ, et toute une série de choses comme ça qui font que finalement, ça devient un récit sensible. Un récit presque artistique, enfin, érotico, artistico, je sais pas quoi, cognitif, philosophique et métaphysique, qui est autrement plus important que de montrer une photo ou de faire écouter un enregistrement. Alors je sais que c'est pas très très à la mode de faire marche arrière par rapport à nos outils formidables de redistribution du réel, mais de la fiction du réel, mais en fait moi je trouve ça assez intéressant de se remettre dans des situations où les gens se... On remet de la subjectivité entre les gens, quoi. J'en arrive donc au champ de la chair. Donc, je trouve 120 personnes à qui je propose de se mettre en maillot de bain. Et puis, je prends 2 solistes percussionnistes. Donc, il y a un percussionniste qui est gros et un qui est maigre. Parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes sons. Lui, il vient de Marseille. C'est assez rare de trouver des gros dans les percussionnistes. Et puis j'en trouve un mec qui lui aussi a tendance à vieillir, à grossir sa forêt. Donc j'essaie de les maintenir en leur disant que, comme un comédien, ils ont, vous savez, des comédiens qui sont poussés à la barre, qui sont grossis, qui sont aigris. Donc là, je leur demande vraiment d'avoir. Parce que dans les régions graisseuses, on obtient des graves. Et dans les régions très osseuses, on a beaucoup d'aigus. Donc si je veux avoir une palette de timbre, il faut que j'ai deux. Voilà.
Et donc, j'ai, c'est une pièce que j'ai commencé à donner, à, que j'ai beaucoup redonnée. Enfin, j'avais donné au Forum des Images à Paris, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années. Et puis après, après, j'ai pas arrêté de la redonner. Là, ça, c'est à Cuba. Donc, avec des Cubains. Donc, là, évidemment, ce qui avait été intéressant avec Cuba, c'est que j'avais vraiment des grosses dames, il y avait des vieux monsieur, il y avait des gens très jeunes, il y a des enfants, là, on ne voit pas très bien. Mais alors que quand j'étais au Japon, à Tokyo et à Kyoto, ils sont tellement. Enfin, ils sont tellement. Respectueux du corps d'autrui, que la pudeur, c'est un principe structurel dans la culture asiatique, enfin, la culture japonaise. Donc, c'était compliqué de trouver de 120 personnes qui se mettent en maillot de bain en public, quoi. Et donc, je me suis retrouvé avec des étudiants, quelques étudiants dans des facs. Donc, c'est que des petits corps hyper minces. J'avais aucun grave. Enfin, c'était que des gens qui faisaient 1m50 et qui pesaient 45 kilos, quoi. Donc, bon, la partition a été pas mal modifiée au Japon. Et puis, je l'ai redonnée il n'y a pas longtemps à Pécs, en Hongrie. Puis, je l'ai donnée aussi à Marseille. Alors, voilà, ça, c'est où, ça? Ça, c'est à Paris. Voilà, et donc, vous pourrez essayer ce soir dans le lit. Il y a une palette de sons exceptionnelle sur le corps. Mais vraiment, on peut pas imaginer. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le corps est fait à 80% d'eau. Pourtant, il est solide. Mais quand vous frappez dessus, vous entendez une goutte d'eau, quoi. Vous entendez de l'eau tout de suite. Et imaginez 120 personnes qui font ça, vous entendez une pluie sur un toit, quoi. Et très très vite, le son se métamorphose tout de suite en connotations diverses. Enfin, il y a une espèce d'évocation. Bon, après, il y a tous les sons connus de frappe, etc. Mais il y a des sons de frottement, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a un truc avec les dents, un truc avec... Enfin, c'est fantastique. Alors, du coup, vous voyez des gens qui sont en train de travailler avec leur corps, puisqu'ils se reportent sur le corps de l'autre. Enfin, ça donne des choses extrêmement jubilatoires. Mais surtout, ce que ça donne, c'est que vous ne comprenez pas ce que vous entendez. Parce que comme ils sont 120, on a donc un travail de matière. C'est ce qu'on ferait dans un studio. Enfin, c'est l'accumulation des sons, la densité, et puis en plus, le travail de spatialisation sur la densité, parce qu'ils peuvent à ce moment-là faire ou pas faire... Bon. Ça devient un truc qui on peut travailler sur le morphing un peu. On comprend pas ce qu'on entend parce que c'est démultiplié, évidemment très vite chaque son se constitue avec l'autre pour fabriquer de la matière, quoi. Donc ça devient tout de suite un continuum. Et ce continuum de frottement, de tapotement, etc. Permet de pas rester sur l'anecdote, parce que évidemment ça, si c'est un spectacle, ça n'a absolument aucun intérêt. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup hésité à ce qu'on les voit, parce que je trouvais ça, enfin, inintéressant. Mais en même temps, comme de toute façon, ce qu'on entend n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit, les gens très vite ne regardent plus et écoutent quelque chose qui est assez saisissant. Alors, évidemment, ça crée des gestes aussi. Bon, moi, je suis pas chorégraphe, mais ça crée des gestes d'ensemble qui naturellement sont assez. Voilà, le gros et le mec, mais le mec il commence à avoir du bide là-bas. Voilà, alors en fait, ça c'était une suite parce qu'en fait j'ai fait un concert il y a très longtemps qui s'appelait le concert de baiser où j'avais rassemblé aussi 150 personnes pour s'embrasser sur une partition qui durait 12 minutes. J'avais fait pour la fête de la musique en 83. En alternance avec l'orchestre de Paris, la Barenboim, qui jouait la cinquième de Beethoven. Donc c'est ça qui était drôle, c'était que il y avait le concert de baiser, après il y avait la cinquième de Beethoven, et après il y avait le concert de baiser. Et ça se passait dans la cour du Palais Royal, sous le ministère de la Culture. Et bon, c'était au départ plutôt presque plus d'une performance, enfin un truc un peu provoque. En fin de compte, ça a donné une belle pièce, que d'ailleurs on m'a toujours redemandé, mais que je redonne pas, parce qu'elle est trop anecdotique, elle est trop démonstrative, enfin elle est trop... Et qui s'appelle donc un concert de baisers. Et donc il y a une partition extrêmement précise parce qu'il y a des baisers graves, il y a des baisers aigus, il y a des baisers mous, des baisers durs, des baisers courts, des baisers longs. Enfin, vous les connaissez, vous les pratiquez tous les jours. Et il y a beaucoup beaucoup de possibilités avec les sons de la bouche. Hein, beaucoup de voilà. Donc ça a donné des. Alors vous voyez aussi l'état d'esprit que ça raconte, ces photos. Ça raconte aussi des relations humaines. Des relations humaines fabriquées pour la partition, mais qui en même temps témoignent de quelque chose. Quand est-ce qu'on, dans un concert, on voit des choses comme ça? Quand est-ce qu'on voit des instrumentistes qui ont des rapports comme ça? C'est aussi toute une démarche, quoi. On voit que ça traverse quand même la société, quoi. C'est pas seulement une histoire de son, quoi. Ça traverse, ça nous interpelle. Et ça fabrique, voilà, ça fabrique une dynamique, ça fabrique. Voilà, et l'ensemble, ça donne tout ça, voilà. Là, il avait plu juste avant. Oui, parce qu'en plus, il pleuvait pour la cinquième de Beethoven chaque fois. Et puis après, ça s'arrêtait de pleuvoir quand je jouais. C'est ça qui était sympa. Il y a des micros partout, évidemment, parce que c'est des sons qui sont assez fins. Bon, la photo est très mauvaise, mais. Voilà. Alors, après, on va aller chez Renault, parce qu'en fait, quand le comité d'entreprise a découvert que l'usine Renault à Boulogne-Billancourt, c'était une forteresse ouvrière. Il y avait au départ près de 30 000 ouvriers, après il y en a eu 25 000, après il y a eu 20 000, et quand ils étaient à 16 000, ils m'ont appelé, le comité d'entreprise m'a appelé, enfin c'était la CGT, en me disant ils sont en train de liquider l'usine. Et il faut absolument, absolument faire la mémoire sonore de l'usine. J'ai trouvé ça assez exceptionnel qu'un comité d'entreprise pense à ça. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu pourrais venir enregistrer tout l'usine ? Alors, c'est pas seulement sur l'île Seguin. L'île Seguin, elle est là. C'est pas seulement l'île Seguin, c'est aussi... parce qu'en fait, il y avait des ateliers aussi à Meudon. Il y avait des ateliers à Boulogne. À Meudon, c'était toute la sellerie et les pneus. Et à Boulogne, c'est tous les moteurs, il y avait les machines-outils aussi, les machines qui fabriquent les machines, qui fabriquaient, voilà, c'est parce qu'il faut bien une machine pour fabriquer une machine. Et alors que sur l'île, c'était la chaîne, en fait, c'est là où au cinquième étage de l'île, il y avait les premiers assemblages, et puis la voiture descendait, enfin la voiture, les pièces s'assemblaient au fur et à mesure, et quand elles arrivaient en bas, il y avait une piste d'essai dans l'île, où les gens essayaient les voitures. Et au départ, la CGT voulait que je fasse un concert électroacoustique. En fait, ils voulaient que j'enregistre, que je fasse la mémoire du site, parce qu'ils savaient que ça allait disparaître. Ce dont Renault se foutait complètement, ce qui est quand même fou que ce soit l'entreprise elle-même qui ne s'occupe pas de conserver une mémoire sonore. Et eux, ils voulaient une pièce électroacoustique avec des haut-parleurs. Et moi, je me suis trouvé très, très, très gêné par cette commande. Je me disais, mais comment est-ce que je peux arriver avec mon Agra qui coûte je ne sais pas combien, avec mes micros Breitling ou Shops, en train d'enregistrer des ouvriers qui sont payés, qui sont à peu près tous immigrés. En plus, la direction prenait bien soin de mettre un Portugais à côté d'un Arabe, à côté d'un Yougoslave, à côté d'un Thaïlandais, pour qu'ils ne se parlent pas. Et donc, on est vraiment dans une guerre capitaliste. Enfin, on est vraiment en train de produire de la plus-value sur le travail des gens, en fabriquant à la chaîne des voitures dont les bénéfices ne sont évidemment pas du tout redistribués, puisqu'il y a des actionnaires. Enfin, on est vraiment là, au cœur même de tout le dispositif, le plus vénal qui soit. Et donc, moi, je me trouvais... faire de la mémoire, c'était vraiment un acte important, c'était un acte de résistance, c'était de se dire, il faut qu'on se rappelle de cette condition ouvrière, ce qu'on se rappelle de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leur sensibilité, etc. Mais en même temps, faire après ma musique avec leur bruit et demander à des gens de venir écouter, de venir s'éclater sur les bruits de l'usine, je trouvais ça un peu trivial, mais eux, ils trouvaient ça normal. Et donc, j'ai proposé un autre projet, qui consistait à faire cette mémoire. Donc, je me promenais dans l'usine avec... j'enregistre carrément à travers les parois, hein. Je me promenais dans... c'est sous les presses, le convoyeur des chutes sous les presses. Donc j'enregistrais tout. J'ai enregistré les 16 000 postes de travail. Et puis j'avais un camion. Et dans le camion, j'avais installé un studio avec tous mes Revox et mes consoles. Et je faisais venir les ouvriers pour qu'ils écoutent le travail que je faisais. Et qu'ils me disent, et qu'ils reconnaissent leur son, et qu'ils me disent que j'avais enregistré et qu'on ait une relation. Et suite à tout ce travail, parce qu'en fait, dans cette usine, on pouvait se promener partout en camion. Près des bureaux, etc. Enfin, il y avait des passages de voitures partout. Et après, j'ai fait un concert avec les voix, un concert dans lequel il y avait des bandes, évidemment, des bandes spatialisées en multipiste. Et puis, là, j'avais décroché de la direction un grand, grand hangar dans lequel j'avais mis des camions plateaux sur lequel j'avais mis, qui servaient de scène, et dans lequel j'avais à peu près 120 ouvriers qui ont participé vocalement et qui faisaient un travail vocal autour des sons. Donc, faire un travail à la fois entre voix et bruit, Et ça a donné, juste avant que l'usine soit complètement détruite et reparte pour certaines pièces en... Parce qu'ils fabriquaient des 4L. C'était les premières R5, en fait. Ils fabriquaient encore un peu les 4L et les R5. L'usine est partie en Argentine. Elle a été délocalisée pour l'Amérique du Sud. Et puis, bon, puis après, tout le monde a été dispersé. Enfin, c'était une horreur. Hein. C'est 16 000 personnes qui sont retrouvées sur le carreau. Voilà, c'était... Il y a quelques années. Hein. Bon, regardez plutôt à droite. Hein. Voilà, vous reconnaissez, il y a un A700, après il y a un A77, après il y a peut-être un C270, je ne sais pas. Et puis, une console analogique avant. Et alors, j'avais affiché des trucs dans le camion. Enfin, j'étais mon studio ambulant, quoi. J'avais un studio ambulant. Et avoir un studio dans une usine, je peux vous dire, c'est une belle aventure.
Et quel rapport il y avait de leur part à ces sous? Parce que c'était...
Alors, c'est une question très importante. C'est là que j'ai appris... c'est là que j'ai appris, parce que c'était une opération que j'ai faite il y a très longtemps et qui m'a beaucoup servi après à l'hôpital, que en fait les gens étaient très attachés au bruit, très attachés à leur bruit. Ils ne sont pas attachés au bruit, ils étaient attachés à leur bruit, et qu'ils avaient beaucoup, beaucoup envie de les reconnaître, de les écouter, etc. Et en fait j'ai découvert là des savoir-faire auditifs assez exceptionnels, de gens qui savaient usiner des pièces au micron près uniquement à l'oreille. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans un atelier, ils fermaient les yeux, ils savaient le nombre de gens qui étaient là, qui n'étaient pas là. Ils savaient, l'oreille est très 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 sollicitée dans le monde du travail industriel en particulier, mais dans tous les métiers. Et ils ont une acuité auditive qui leur permet de sélectionner vraiment ce dont ils ont besoin d'entendre. Ils n'entendent pas tout, ils entendent ce dont ils ont besoin. Et quand on parle avec eux sur ces choses-là, d'abord ils savent exactement où sont les sons intéressants. Donc c'est eux qui vraiment me guidaient. Enfin, ils étaient mes auditeurs, enfin, ils étaient mes pisteurs, mes guides. Et ils étaient très intéressés à la façon dont je les enregistrais, parce que évidemment pour eux c'était pas forcément ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire qu'avec des micros évidemment ultra directionnels, on n'entend pas la même chose qu'avec les oreilles. Mais en même temps, la sélectivité auditive, justement, c'est ça qu'elle fait. Hein. L'oreille fait une chose que aucun micro ne sait faire. Enfin, le micro c'est évident, lui il sait rien faire, mais aucun logiciel même ne sait faire encore. C'est aller écouter dans un spectre les fréquences dont il a envie. Ça, aujourd'hui, on sait pas le faire. On sait pas le faire. On saurait le faire d'une façon technique, c'est-à-dire en disant quelles sont les fréquences qu'on veut entendre. Mais là où le cerveau est complètement fou, c'est qu'il change d'avis en toutes les microsecondes et qu'il est capable de se balader pour des raisons qui sont des raisons personnelles, qui peuvent être subjectives, affectives, mais aussi psychologiques, idéologiques ou fonctionnelles ou professionnelles. Il peut se promener à l'intérieur d'un univers sonore en fonction de ce dont il a besoin et aller écouter ici plutôt le mode d'attaque, ici plutôt le spectre, ici plutôt un grésillement. Regardez, vous faites une soirée... Vous faites une soirée chez vous, vous invitez des amis à boire un coup, et puis la maîtresse de maison vient d'avoir un bébé. Et bon, le bébé il dort, on s'en fout, tout le monde est en train de festoyer à grand bruit, et puis tout d'un coup elle se lève, et elle se rue dans la chambre, mais il n'y a personne qui a rien entendu. Sauf qu'elle est un peu obsédée par son bébé, et elle écoute tout ce que dit tout le monde, elle boit des coups, elle rigole avec tout le monde, mais elle a une oreille qui est capable, dans une ambiance sonore absolument pleine, de reconnaître si ça bouge à côté. Et pourtant, elle participe à égalité avec tout le monde. Mais elle a cette espèce de sas auditif qui est absolument inouï, enfin, parce qu'en fait, c'est pas un son émergent, hein, comme des nos portables qui sont dans des fréquences qui émergent tout le temps de l'environnement sonore. Et c'est un son qui est pas du tout émergent, qui est absolument fondu dans le spectre du bruit ambiant, mais qui pour elle a du sens, donc elle arrive à dépister. Et à l'hôpital, j'ai rencontré plein de choses comme ça, des gens qui ont des infirmières qui sont devant 8 couveuses, et chaque couveuse a des bips en fonction de l'oxygène, du battement de cœur, de plein de trucs. Et quand il y a un bip qui se met à changer de rythme, elle se lève et elle sait quelle est la couveuse qui... C'est des savoir-faire auditifs que dont les musiciens pourraient s'inspirer. Enfin, c'est vraiment des choses... Parce que c'est plus de l'écoute symphonique, enfin, ou de l'écoute réduite, c'est de l'écoute cognitive. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est de l'écoute qui a du sens, quoi. C'est de l'écoute qui va chercher un sens dans le son, et qui n'est pas seulement de l'écoute formelle, enfin, ou de l'écoute, oui, ce qu'on appelle de l'écoute réduite, c'est-à-dire l'écoute de la matière de façon verticale et horizontale. Donc on apprend beaucoup sur la façon d'entendre, quand les gens d'entendre leur environnement et de travailler avec leur écoute, etc. Et pour le musicien, évidemment, ça guide énormément. Voilà. Alors on arrive à la porcelaine. Donc, alors évidemment, j'en profite puisque les instruments n'existent pas, puisque
et je fabrique des petits balafons, par exemple. Je fabrique des conques fermées que je découpe, et là, je tiens des larmes qui font des sons différents. Et dans la fréquence de résonance, ça dépend évidemment du type des dents que ça soit en haut-parleur, en fait, hein, du type des dents que je fabrique. Alors là, il y a d'autres types de formes ici. Ici, je fabrique, j'imite ce que j'avais découvert avec mon sœur de pierre. Il y a des coraux, si vous voulez, qu'on peut scier en deux, on trouve ça dans les magasins de pierres précieuses. Vous savez, on voit des blocs de quartz, et puis ils ont été coupés en deux, et à l'intérieur, vous voyez des cristaux, ça, vous savez, c'est ce qu'on achète, ça va poser sur l'armoire, etc. C'est très, très cher, et qui sont très beaux. Et en fait, si vous les frottez l'un contre l'autre, comme c'est creux à l'intérieur, vous avez un effet de conque résonant, enfin, qui est très beau. Du coup, j'en avais parlé en porcelaine, avec des creux et avec des différents types de formes intérieures, pour que ça résonne. Bon, ça, c'est des espèces de maracas, c'est aussi pareil, avec des formes, des sorties de son qui sont très différentes selon les essais. Ça, c'est des espèces de cymbalettes que je frotte comme ça. Et en fait, voilà, je commence à l'inventer. Alors, avec la porcelaine, je suis parti dans trois directions. Première direction, imiter des instruments existants. Donc, j'ai fabriqué un hautbois en porcelaine, des gongs, des chimes, des claviers, bon, fastoche. Après, deuxième. Non, ouais. Enfin, non, mais genre, c'est pas moi qui. La lutherie a déjà été inventée, donc il n'y a plus qu'à imiter, quoi. Et il faut juste se procurer les livres pour savoir comment ça fonctionne, mais bon, on va pas réinventer tout. Deuxième hypothèse, c'est d'inventer des formes et des instruments nouveaux qu'on ne peut pas inventer facilement, mais que la porcelaine est assez idéale, parce qu'en bois, c'est assez compliqué, il faut que ça soit compact, il faut prendre des bois qui résonnent, comme l'épicéa, ou voilà. Alors que là, c'est une matière qui se fabrique un peu comme on veut. Puis troisième direction, c'est de récupérer les objets de la manufacture, ce que la manufacture sait fabriquer, et de les détourner musicalement. Alors par exemple, ce vase là, si je le découpe, je vais obtenir un truc comme ça. Et donc j'ai un résonateur et un excitateur. Et si je commence à faire la joue là-dedans, ça résonne dedans. Et du coup, je prends un vase existant et je le découpe. Ça, c'est encore un autre vase, hein, qui était en fait comme ça. Et je l'ai entièrement découpé. Donc ça, c'est quand il est fait, là. Et c'est pas. Il y a un moule, on fait le bas, et après on cherche le technicien qui nous le découpe. Et là j'ai une espèce de. C'est comme une corde en fait. C'est comme une corde au-dessus d'une conque, quoi. C'est comme un instrument africain, il y en a des. Sauf qu'il n'y a pas de. Et puis j'ai des bols, j'ai des assiettes, donc je vais percer les assiettes, je vais faire des cymbales, et donc je détourne complètement la fabrication de manufacture. Après, j'ai inventé des volutophones, parce qu'après, je mets plein de mots dessus. Enfin, j'ai inventé des. Ça, c'est une expo que j'ai faite. Donc là, il y a un chai. Hein. Vous savez, les chai, c'est. Vous savez ce que c'est, bon. C'est fabriqué comme des tons, ou en bambou, ou en coquillage, plein de choses différentes. Et puis là, j'ai inventé un espèce de truc qui s'appelle le volutophone. Donc, je prends une grosse matière de porcelaine, avec un outil en bois, je la déforme, et je fais un espèce de truc avec des vagues, comme ça, partout. Et après, j'ai fabriqué une boule creuse avec un trou, et je la déplace dans le truc. Et donc là, j'obtiens une espèce de crépitement, enfin, c'est des sons très beaux, quoi, parce qu'il y a toute la basse qui résonne, et qui résonne en fonction d'un roulement qui est à l'intérieur d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment des instruments complètement inventés qu'on ne peut pas s'en mélanger. Ah oui, ça, cette photo, je l'avais mise parce que c'est intéressant de voir. Parce qu'il ne faut pas aussi se focaliser uniquement sur l'instrument, il faut aussi se focaliser sur l'histoire que ça raconte. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est transporté dans. Voilà. Qu'est-ce que fait la manufacture de Sèvres? Elle fait ce qu'on appelle des biscuits. Les biscuits, c'est des petits personnages qui étaient des reproductions de pièces de théâtre il y a plusieurs siècles, enfin, c'est Louis XIV et Louis XVI qui ont développé la manufacture. Et donc, du coup, on fabrique des œuvres d'art qui sont comme ça, hein, qui sont comme si elles avaient été en bronze, mais qu'on imite en porcelaine. Et on est sur des univers très précieux, des gens qui travaillent la loupe avec des outils pour faire les personnages, etc. Et vous arrivez et vous faites des gros trucs comme ça. Enfin, et du coup, vous interpellez toute la maison, quoi. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de ça des techniciens d'art qui ont fait des écoles d'art successives et qui pouvaient se diriger vers Marseille, mais qui auraient pu se diriger vers Saint-Louis pour faire de la cristallerie, ou vers les Gobelins pour faire de la tapisserie. Ou vers, bon, on est là sur des métiers d'art très, très. Très codifié et qui fabrique des choses sur le très long terme. Il y a certaines œuvres qui mettent plusieurs mois à être faites. Par exemple, j'ai travaillé au Gobelin, les tapissiers qui travaillent sur les tapisseries que commandent les présidents de la République. Tout le président de la République qui arrive à l'Élysée, en général, c'est une tradition, commande un tapis au Gobelin. Et le tapis, vu les dimensions de l'Élysée ou de Versailles ou des autres, c'est un tapis qui fait 8 mètres par 6. Et il faut savoir qu'un tapis comme ça, on met 5 ans à le faire. Donc depuis qu'ils sont passés au quinquennat, il n'y a plus aucun président qui voit le tapis qu'il a commandé. Mais c'est pour dire que l'ouvrier, il travaille, il fait 5 cm par jour pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il a fini son œuvre. Vous imaginez, il n'y a qu'un nous qui fait ça. Quel est l'artiste qui met 5 ans en avançant 5 cm par jour pour arriver à l'atteindre? Et donc vous arrivez dans un univers de gens comme ça, qui sont des gens qui ont le temps devant eux, qui sont des gens qui ont des métiers extrêmement sophistiqués, qui travaillent sur la précision, qui travaillent sur le raffinement, qui vont aller chercher leur feldspat, leur quartz à l'autre bout du monde pour avoir la meilleure porcelaine. On n'est pas à Limoges, hein. C'est 100 fois plus précieux que Limoges. À Limoges, ils n'ont pas le fric pour avoir des porcelaines de cette qualité. Il y a des bacs pour fabriquer la porcelaine avec des aimants pour attraper toutes les particules de métal, pour qu'il n'y ait pas une particule de métal qui traîne. C'est parfaitement blanc. Ça sonne, c'est complètement translucide, ça sonne, c'est incroyable. On n'est pas à Gien, on n'est pas à Limoges, on n'est pas à Montpellier, on est à Sèvres. C'est vraiment le nec plus ultra de la porcelaine. Et vous arrivez là-dedans, et vous êtes un iconoclaste, vous êtes un vilain petit canard, vous êtes un saltimbanque, vous êtes un clown, quoi. Vous êtes un, je ne sais pas comment décrire ça. Et donc, du coup, il y a tout un travail de relation, quoi. Le musicien qu'est-ce que
Isa? Non, c'est
un éléphant. Un éléphant, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est tout le travail de qui est pour moi un travail d'artiste, quoi. C'est tout le travail de rencontrer ces gens, de leur expliquer ce qu'on a envie de faire, que voilà, que quand on travaille avec des choses cassées, ben c'est pas grave, c'est ça fait partie aussi, on s'intéresse à tout, donc là j'avais c'est une photo qui a été prise, en gros j'avais une partition et j'avais aussi entreposé des pièces cassées parce que j'utilise aussi les pièces cassées parce que j'ai fabriqué aussi un suicidophone, c'est-à-dire que il y a des tasses extrêmement précieuses de sève qui arrivent sur un tapis roulant et le musicien les fait avancer et après elles tombent dans un bac où il y a d'autres porcelaines et ça fait un son de casse, mais que je travaille, donc c'est un suicidophone. Bon, j'ai fabriqué plein d'instruments divers. Et puis, donc le travail qui consiste en fait à collaborer avec ces gens qui savent faire ce que moi je ne sais rien faire par rapport à la porcelaine et dont j'ai besoin, ça demande de se rencontrer et de se rencontrer sur un mode artistique. Donc qu'ils comprennent ce que je veux faire, que moi je comprenne ce qu'ils font, qu'ils m'apprennent leur métier et que je puisse commencer à leur demander des lames de 2 cm ou 1 cm ou 3 cm, qu'eux ils voient la différence, qu'ils comprennent qu'est-ce que je cherche, que moi je comprenne ce qui est possible. Voilà, et alors après, voilà, j'invente des formes qui peuvent tourner, il y a un gong dans le fond, là, et puis... et pour eux, c'était... Enfin, pour eux, c'est devenu... Ça a pris du temps, parce qu'au début, j'étais vraiment... je n'avais pas, comment dire, l'éthique du métier, j'avais pas les règles de l'art, j'avais pas... Et ils m'appréhendaient d'une façon quand même un peu sauvage, et puis petit à petit, ils ont compris que ce que je cherchais, ils m'ont aidé beaucoup à faire des perçages un peu particuliers. Bon, c'est compliqué de percer, c'est des mèches au diamant. Bon, voilà, il y a tout un travail. Et au bout d'un moment, ils se mettaient à être extrêmement passionnés par le fait de me faire des propositions. Il y en a qui ont commencé à fabriquer des objets pour moi. Par exemple, on a pris des anses de tasses, on les a isolées, enfin, on les a moulées, mais telles que, sans les mettre sur la tasse, puis on les a percées et on les a. Avec du fil, du petit fil, et on a fabriqué des espèces de petits chimes, mais ça sonne de façon sublime, quoi. C'est très très beau. Et on a fait ça avec des becs aussi, des becs de. Voilà, et après j'ai fait une expo. Alors il y a eu des concerts, tout ça, bon. Ça c'est des petits maracas avec des formes différentes. Ici il y a des petits tubes à faire, j'excite avec des petites tiges. On a encore des gestes un peu particuliers. Ici, il y a des grosses castagnettes, par exemple. On ne peut même pas mettre sur les mains. Voilà, ça, c'est une des vitrines. Ici, c'est des houdous, une sorte de houdou, enfin, une sorte de conque avec des. Bon, ben, ça, par exemple, c'est un technicien de la manufacture qui m'a proposé ça. Qui m'a proposé de cette forme. C'est pas moi qui l'ai fait. Et je lui ai dit, il faut que ça sorte. Donc, moi, j'étais parti sur tout ça. Et lui, un jour, il m'a amené ça, tu sais, je t'ai fait ça. Voilà, ça a commencé à apprendre dans la relation avec eux. Et derrière, vous voyez un arbre à assiette.
C'est une structure métallique avec des tiges filetées. J'ai mis plein d'assiettes suspendues et le percussionniste est à l'intérieur et il a un instrument à 360 degrés avec des assiettes partout.
Là, c'est des espèces d'ailes d'oiseaux aussi que j'ai suspendues sur des mousses. Alors, ça demande tout un travail de lutherie assez compliqué parce que si vous faites là, bon, il y a la mousse comme vous prenez sa balle sur son pied, hein, une mousse de chaque côté. Mais si vous mettez une mousse, c'est pas pour ça qu'il va sauter parce qu'il y a une production mécanique par la tige. Donc, en haut de la tige s'arrête. La tige, il faut qu'elle soit quand même sinon ça se balance. Donc, elle donne un certain poids. Mais en haut de la tige, il y a un relais avec un élastique pour couper la connexion mécanique entre l'ordinateur et le support. Parce que s'il y a une connexion mécanique, ça ne saute plus, évidemment. Donc, il y a tout un travail d'acoustique en fait, à développer. Là, il y a quoi? Ben voilà, il y a différents objets avec des formes. Et alors à la fin, ça donne un concert. Alors évidemment, moi, j'avais pas voulu rentrer à la couleur parce que c'était pas mon projet. Enfin, c'était un projet musical, c'est pas un projet de plasticien ou de je sais pas quoi. Donc
là, par exemple, j'avais fabriqué aussi des supports comme ça pour suspendre des cloches. Donc là, c'est une sorte de plat qui fait cloche. Ça, c'est une cloche spéciale. Bon. Et en fait, j'ai donné ce concert dans la grande galerie des Beaux-Arts à Paris et puis aussi à la Manufacture dans une installation qui était assez énorme. Avec donc des interprètes en blanc et avec 17 percussionnistes et puis un hautbois et un violoncelliste avec une installation énorme avec des instruments partout, on voit pas tout. On voit l'arbre à assiette là-bas, vous avez vu, ça donne des images assez belles en fait, mais pour le musicien, alors il a toutes ses hauteurs partout, il s'en rappelle, et évidemment c'est un travail, ça demande des heures et des heures de répétition parce que c'est un instrument qui n'existe pas. Hein. Et puis il y a des présentoirs à assiettes ou à plats aussi. Là, je travaillais sur des comas. C'est même plus du quart de ton. C'est qu'en fait, quand vous faites varier à peine le mouvement direct de l'assiette, vous avez une évolution en hauteur qui est extrêmement fine. Donc là, ça, vous avez parfois. C'est même pas des comas, parce que parfois, on avait 12 assiettes pour arriver à faire un ton. Quoi. Donc ça évolue à peine. C'est vraiment un travail de micro-intervalle.
Voilà, donc là c'est des espèces de.
Alors, ça c'est des instruments à bord différents. Donc là j'ai mis un embouchure de clarinette, hein, 65 mm. Ici aussi. Ici c'est une sorte de flûte de pan. Ça c'est une petite carina. Ça c'est un instrument à bord aussi un peu particulier. Et puis ça c'est des espèces de conques où on joue avec un archer, qu'on fait vivre avec un archer.
Évidemment, ça permet d'inventer des formes incroyables. Alors oui, il y a aussi la tarte à l'os. Parce qu'en fait, pendant ce projet, j'ai eu un accident de scooter. Enfin, et j'ai été immobilisé pendant un an. Enfin, j'ai été immobilisé surtout pendant 3 mois dans un fauteuil roulant. Donc j'ai continué de faire ce travail en fauteuil roulant dans la manufacture. Et je m'étais fracassé le tibia et le genou. Bon. Et donc j'étais un peu influencé par ça. Et donc j'ai commencé à fabriquer des petits os que j'ai collés sur une tarte.
Et l'idée c'est de faire un petit comment ça s'appelle un flipper. Et donc du coup le musicien prend la tarte et la bille à l'intérieur et la déplace pour qu'elle vienne sonner sur les bords, qu'elle vienne sonner contre les petits os qui viennent casser avec tomber. Voilà, donc ça donnait des choses un peu ludiques, donc le musicien se promenait avec des tartes, tout ça. Voilà. Ça c'est un maracas inversé, c'est-à-dire que la bille n'est pas intérieure mais à l'extérieur, c'est un côté perle qui est autour. On a fait différentes choses.
Ça, c'est un grand clavier. Alors, un clavier avec du colombin, c'est-à-dire c'est plus des lames en plate, mais des lames rondes. Et les baguettes sont en porcelaine aussi. Ça, c'est comme les wood blocks.
Vous savez, les wood blocks sur lesquels c'est des pièces en bois, comme les polyblocks. Les polyblocks, c'est un matériau, une résine que fabrique Rive Maison à Strasbourg. Et c'est des blocs en bois qui ont des hauteurs différentes. Hein, donc là, j'essaie de fabriquer un porcelaine. Là, on tape dessus, ça donne chaque fois des teintes différentes. Hein.
Il y a un houdou à droite.
C'est pas trop tragique.
Ça va. Ça peut casser, oui. Ça a cassé pendant les concerts. J'avais des pièces en double. Alors ça, c'est des...
C'est pareil, il y a des... Il y a des... En fait, il y a des colonnes dans l'intérieur. C'est là que je disais que les meilleures de forme, c'est que... si vous changez ce que vous faites, il n'aime pas, quoi, en fait, il pue. Ça, c'est un instrument qu'on joue en déplaçant une baguette à l'intérieur et on touche des lames dans des hauteurs différentes, donc on a une espèce de mélodie naturelle dans l'instrument. On a aussi ici. Et ça, c'est des bols fermés dans lesquels on s'est levé des billes. Donc c'est pareil, c'est ça, c'est pour des pièces qui sont écrites avec un grand nombre d'interprètes pour avoir comme ça un peu de morphing avec des petites et puis qui passent à des plus grosses et des plus grosses. Et vous avez un son qui, comme ça, qui évolue vers le grave dans l'aigu uniquement avec 7 personnes. Quoi. Chacun ayant son instrument.
Voilà l'arbre à assiette dans une autre version un peu plus simple. Voilà. Et puis on va finir ce parcours sur la lutherie. Enfin, finir, non, parce qu'après, je voudrais vous parler un peu de scénographie, c'est-à-dire de mise en œuvre des concerts, parce que je suis très attaché à la façon dont les gens écoutent les choses, c'est-à-dire que l'endroit où ils sont pour écouter, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils savent sur le travail. Enfin, je pense que la DRAC, par exemple, les facs culturels, s'intéresse de plus en plus au nombre de gens qui sont dans le concert. Les subventions, c'est que si vous avez 12 personnes dans le concert, vous êtes sûr de ne pas être resubventionné. Si vous en avez 250, ça va à peu près, quoi. Mais en fait, ils s'en foutent de ce que les gens entendent. Ils veulent juste qu'il y ait du nombre. Ils veulent juste qu'il y ait de la quantité. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce que les gens entendent. C'est d'abord, qui sont les gens qui sont venus écouter? Est-ce que c'est juste les copains ou est-ce que c'est des gens qui sont pas prévenus, qui connaissent pas ça, est-ce que c'est un vrai travail de découverte ou pas? Et puis ensuite, comment les gens entendent? Est-ce que les gens sont juste venus par hasard et repartent perplexes, ou est-ce que les gens ont des clés pour progresser dans la perception, dans les références culturelles, dans leur imaginaire, dans plein de choses? Comment est-ce que le musicien accompagne l'auditeur dans des univers sonores et musicaux qui sont plutôt inédits ou qui sont pas évidents? Et parce que l'intérêt, c'est que l'auditeur soit au cœur du truc et non pas comme une poule qui vient de prendre un œuf devant les Champs-Élysées, quoi. C'est-à-dire qu'il soit qu'il soit acteur, quoi, qu'il soit pas seulement un espèce de spectateur perplexe. Et du coup, je pense que la question du titre, la question du programme, la question de la scénographie, du lieu, la question de... Enfin, tout ce qu'on organise autour du concert, des préparations possibles, etc., font qu'on a un public qui est un public qui est touché, enfin qui est concerné, ouais, plutôt, ou un public qui est venu par hasard, qui a vu de la lumière, qui est monté, quoi. Et je trouve ça assez important de travailler ces aspects-là, les aspects de comment est-ce que le concert devient un acte social et non pas seulement la manifestation d'un artiste dans l'espace, quoi. Comment est-ce qu'il mobilise la société, et comment il l'interpelle, et comment il la travaille, et comment... Voilà, alors ça, c'est un concert que l'un d'entre vous a vu. Donc c'est un travail que j'ai fait pendant 2 ans dans l'usine PSA de Saint-Ouen. Donc j'ai contacté le directeur de l'usine en disant que je voulais m'installer dans l'usine pendant 2 ans pour faire un travail avec eux. Alors il m'a donné assez rapidement 2-3 bureaux pour m'installer, pour travailler, et puis aussi un espace de travail qui est celui-là, dans l'usine. Et donc j'ai fait plusieurs opérations en même temps, ce que je fais souvent. D'abord j'ai commencé à enregistrer tous les sons de l'usine, donc les machines, etc. C'est des prêts, c'est de l'emboutissage, de la soudure, etc. Après j'ai fait des entretiens avec les salariés. Tiens, d'ailleurs j'ai pas amené de journaux au travail. Des entretiens avec à peu près 80 salariés pour essayer de comprendre leur boulot, de comprendre leur rapport au travail. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler la question du travail. C'est-à-dire de travailler, qu'est-ce que c'est que le travail? Et de travailler avec eux, avec leurs sentiments, et de réfléchir à la façon dont on s'approprie son travail, dont on l'invente, dont on y met de soi, dans la question de la subjectivité, de l'approche sensible, de l'approche intellectuelle, etc. On a souvent une vision du travail comme étant un lieu dans lequel on exécute des gestes pour une production. Enfin, tout ça, c'est du fantasme. Dans la réalité, personne n'exécute rien du tout et tout le monde fait quelque chose avec un savoir-faire et ça se passe jamais comme prévu et on trouve la solution. Et donc, il y a vraiment de l'invention permanente et il y a de l'appropriation de la réactivité, enfin de l'initiative et ça. Et donc c'est tout ça qui m'intéressait de mettre en avant. Et donc j'ai commencé aussi à collecter les pièces que eux fabriquent, qui sont que des pièces de voiture. Hein. Là-dedans, c'est des pièces que nous on connaît pas bien, parce que c'est des pièces de renfort, c'est des pièces qui sont cachées dans la voiture, c'est pas le volant, le clignotant ou le rétroviseur, c'est des pièces qu'on connaît pas. Et parmi ces pièces, il y en a qui sonnent de façon sublime, d'autres qui sonnent de façon, enfin, qui ont des résonances longues ou plus courtes, qui ont des timbres particuliers. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à les collecter et à essayer de les mettre en forme, à leur imprimer des formes pour les faire résonner différemment. Alors ça, c'est pas une pièce de voiture, hein, ça c'est un élément. C'est comment on fabrique une pièce. En fait, vous avez une tôle qui est comme ça, horizontale, et qui va avancer par à-coup dans une immense presse. Et cette presse, elle est faite avec deux outils. Il y a un outil en bas, un outil en haut. Et quand elle va s'abaisser, elle va imprimer un mouvement sur la tôle. Et le premier mouvement qu'elle fait, par exemple, c'est de fabriquer ce trou-là, c'est d'emboutir ça, de faire ce trou, puis après ça, c'est d'en faire un peu plus, faire un peu plus. Et petit à petit, on arrive à la pièce finale. Et après, elle coupe la pièce finale, elle la détache. Et ça, c'est l'armature qui repart dans un convoyeur, dans un wagon, qui repart à Dunkerque, c'est l'orbital, qui est refondu, et on ne garde plus que cette pièce. Donc, et ça donne, par exemple, ces grandes grilles, ça donne ça. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce, voilà, on voit qu'un morceau de grille, la pièce finale, elle n'est pas loin d'être là, et ici, c'est le début de la fabrication. Et donc, tout ce métal n'attend que ça, que de sonner. Hein. Ben là, vous pouvez reconnaître, pour ceux qui ont fait un peu de mécanique, en haut à gauche, vous voyez ce que c'est. Ça, on connaît ce que c'est, ça, quand même.
Un carter d'huile.
Bon, alors ça c'est des gros carters, ça c'est des petits carters. Voilà, donc ça après je les suspends avec des systèmes de suspension pour que ça sonne, ça résonne. Ça c'est des pièces à qui j'ai fait des formes. Et puis après ça je fabrique un instrumentarium. Quoi. Je fabrique j'ai toute une série de baguettes différentes. Donc, évidemment, comme les sons ne sont pas très variés, on ne peut pas beaucoup varier les sons. C'est pour ça la porcelaine, j'ai un objet fini, je ne peux pas y toucher. Moi au début je vais faire des sculptures, je vais faire des soudures, et en fait c'est un métal hyper compliqué, je ne sais pas trouver, bon enfin, peut-être pas que c'est un truc dans le cul que de me faire des soudures. Donc j'ai décidé de travailler avec le matériau brut, avec des pièces détachées brutes. Mais par contre je triche avec ça, c'est-à-dire que j'ai des baguettes de vibra, de xylo, des baguettes de métalliques, des baguettes. Et effectivement, si vous frappez un objet métallique avec une baguette de vibra très très douce, vous avez du grave. Parce que vous excitez principalement la vibration grave. Si vous la frappez avec une baguette métallique aussi, là vous n'avez qu'un scintillement, vous avez un choc, vous avez pratiquement. Et avec une baguette de vibra assez dure, vous avez un médium aigu. Donc avec le même objet, en changeant de baguette, j'avais des timbres assez différents. Enfin, en tout cas, des modes d'attaque qui révèlent des timbres ou des modes de résonance différents. Voilà, et puis là il y en a qui ont des hauteurs précises, des petites étiquettes, parce que je suis arrivé à faire des petites mélodies, je fais un petit passage un peu répétitif à la file glace à un moment donné dans une des parties. Voilà, et puis on voit un fa, un la, un fa dièse, un sol dièse. Et tout ça est posé sur des mousses alvéolées pour qu'il y ait le moins de contact possible avec la pièce. Et à la fin, ça donne une installation comme ça en répétition. Donc c'est pour 7 percussionnistes. Plus flûte et contrebasse, et qui va être donné après dans un lieu. Voilà, puis ça, c'est des essais avec des plaques, et on voit toutes les grilles d'ailleurs que j'ai suspendues. Donc j'ai fait fabriquer par l'usine des portiques pour suspendre ces pièces. Et là, je suis en train de faire de déterminer les hauteurs en fonction de. Voilà, et au moment du concert, les musiciens ont tout ça devant eux, et une partition toute écrite évidemment, et. Voilà.
Il y avait des chanteurs là-dessus ?
Oui, il y avait plein de chanteurs. Il y avait un nocturne professionnel, 8 chanteurs pro, un chœur de 50 personnes amateurs, plus trompette, trombone, tuba, luth, contrebasse, flûte, trois percussionnistes, enfin dans l'autre partie, plus 15 lecteurs, qui sont des salariés de l'usine qui disaient des textes, plus des bandes magnétiques. Alors, avant qu'on passe peut-être à une deuxième partie, vous voulez des pauses, vous voulez faire pipi, fumer des cigarettes ou pas? Oui. Alors, on peut faire une pause maintenant, et puis après on parle de ça, et puis après on passera à une deuxième phase sur la question de la présentation, de l'écoute, de la scénographie, tout ça.